Poème 28. Savitri. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Pour sauver son époux, Savitri fit le vœu de se tenir 3 jours entiers, 3 nuits entières, debout, sans remuer jambes, buste ou paupières, rigide, ainsi que dit Vyasa, comme un pieux. Ni Curia, terreur cruelle, ni la longueur que Chandra vint répandre à minuit sur les cimes, ne firent défaillir, dans leur effort sublime, la pensée et la chair de la femme au grand cœur. Que nous cerne l'oubli, noir et morne assassin, ou que l'envie, au trait amer, nous ait pour cible, ainsi que Savitri, faisons-nous impassible. Mais, comme elle, dans l'âme, ayons un haut dessein. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 29. Sub urbe. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Les petits ifs du cimetière frémissent au vent yémal dans la glaciale lumière. Avec des bruits sourds qui font mal, les croix de bois des tombes neuves vibrent sur un ton anormal. Silencieux comme les fleuves, mais gros de pleurs comme eux de flots, les fils, les mères, elles veuves, par les détours du triste enclos, s'écoulent, lente théorie, au rythme heurté des sanglots. Le sol sous les pieds glisse et crie. Là-haut, de grands nuages tors s'échevèlent avec furie. Pénétrant comme le remords, tombe un froid lourd qui vous écœure et qui doit filtrer chez les morts, chez les pauvres morts, à toute heure, seuls et sans cesse grelottant, qu'on les oublie ou qu'on les pleure. Ah, vienne vite le printemps et son clair soleil qui caresse et ses 12 oiseaux caquetants, refleurisse l'enchanteresse, gloire des jardins et des champs que l'âpre hiver tient en détresse. Et que, des levées au couchant, l'or dilaté d'un ciel sans bornes berce de parfums et de chants, cher endormi, vos sommeils mornes. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 30. Sérénade. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Comme la voix d'un mort qui chanterait du fond de sa fosse, maîtresse, entends monter vers ton retrait ma voix aigre et fausse. Ouvre ton âme et ton oreille au son de la mandoline. Pour toi j'ai fait, pour toi, cette chanson cruelle et câline. Je chanterai tes yeux d'or et d'onyx, pur de toutes ombres, puis le léthé de ton sein, puis le styx de tes cheveux sombres, comme la voix d'un mort qui chanterait du fond de sa fosse. Maîtresse, entends monter vers ton retrait ma voix aigre et fausse. Puis je louerai beaucoup, comme il convient, cette chair bénie, dont le parfum opulent me revient les nuits d'insomnie. Et pour finir, je dirai le baiser de ta lèvre rouge, et ta douceur à me martyriser, mon ange, ma gouge. Ouvre ton âme et ton oreille au son de ma mandoline. Pour toi j'ai fait, pour toi, cette chanson cruelle et câline. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 31. Un dahlia. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Courtisane au sein dur, à l'œil opaque et brun, s'ouvrant avec lenteur comme celui d'un bœuf, ton grand torse reluit ainsi qu'un marbre neuf. Fleur grasse et riche, autour de toi ne flotte aucun arôme, et la beauté sereine de ton corps déroule, mat, ses impeccables accords. Tu ne sens même pas la chair, ce goût qu'au moins exhale celle-là qui vont fanant les foins, et tu trônes, idole insensible à l'encens. Ainsi le dahlia, roi vêtu de splendeur, élève sans orgueil sa tête sans odeur, irritant au milieu des jasmins agaçants. Fin du poème. Cet enregistrement appartient au domaine public. Poème 32. Nevermore, des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouan. Allons, mon pauvre cœur, allons, mon vieux complice, redresse et peins à neuf tous tes arcs triomphaux. Brûle un encens ranci sur tes autels d'or faux. Sème de fleurs les bords béants du précipice. Allons, mon pauvre cœur, allons, mon vieux complice. Pousse à Dieu ton cantique, ô chantre rajeuni. Entonne, orgue enroué, des tédéum splendides. Vieillard prématuré, mets du phare sur tes rides. Couvre-toi de tapis mordorés, murs jaunis. Pousse à Dieu ton cantique, ô chantre rajeuni. Sonnez grelots, sonnez clochettes, sonnez cloches, car mon rêve impossible a pris corps, et je l'ai, entre mes bras pressés. Le bonheur s'est ailé, voyageur qui de l'homme évite les approches. Sonnez grelots, sonnez clochettes, sonnez cloches. Le bonheur a marché côte à côte avec moi, mais la fatalité ne connaît point de trêve. Le ver est dans le fruit, le réveil est dans le rêve, et le remords est dans l'amour, telle est la loi. Le bonheur a marché côte à côte avec moi. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 33. Il Baccio, des poèmes saturniens de Paul Verlaine, lu pour LibriVox.org par J. C. Gouan. Baiser, rose trémière au jardin des caresses, vif accompagnement sur le clavier des dents, des doux refrains qu'amour chante en les cœurs ardents, avec sa voix d'archange aux langueurs charmeresses. Sonneur et gracieux baiser, divin baiser, volupté non pareille, ivresse inénarrable. Salut, l'homme penché sur ta coupe adorable, si grise d'un bonheur qu'il ne sait épuiser. Comme le vin du Rhin et comme la musique, tu consoles et tu berces, et le chagrin expire avec la moue en ton pli purpurin. Qu'un plus grand, Goethe ou Will, te dresse un vers classique. Moi, je ne puis, chétif trouvère de Paris, t'offrir que ce bouquet de strophes enfantines. Sois bénin, et pour prix, sur les lèvres mutines d'une que je connais, baiser, descend et rit. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 34. Dans les bois. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouan. D'autres, des innocents ou bien des lymphatiques, ne trouvent dans les bois que charme langoureux, souffle frais et parfum tiède. Ils sont heureux. D'autres s'y sentent pris, rêveurs, des froids mystiques. Ils sont heureux. Pour moi nerveux, et qu'un remords épouvantable et vague affole sans relâche, par les forêts je tremble à la façon d'un lâche, qui craindrait une embûche ou qui verrait des morts. ces grands rameaux jamais apaisés comme l'onde, d'où tombe un noir silence avec une ombre encore plus noire. Tout ce morne et sinistre décor me remplit d'une horreur triviale et profonde. Surtout les soirs d'été, la rougeur du couchant se fond dans le gris bleu des brumes qu'elle teinte d'incendie et de sang. Et l'angélus qui tinte, au lointain, semble un cri plaintif se rapprochant. Le vent se lève chaud et lourd, un frisson passe et repasse, toujours plus fort, dans l'épaisseur, toujours plus sombre, des hauts chênes, obsesseurs, et s'éparpille ainsi qu'un miasme dans l'espace. La nuit vient, le hibou s'envole, c'est l'instant où l'on songe au récit des aïeules naïves. Sous un fourré là-bas, là-bas, des sources vives font un bruit d'assassins postés se concertant. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 35. Nocturne parisien. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Roule, roule ton flot indolent, morne Seine. Sur tes ponts qu'environne une vapeur malsaine. Bien des corps ont passé, morts, horribles, pourris, dont les âmes avaient pour meurtrier Paris. Mais tu n'entraînes pas, en tes ondes glacées, autant que ton aspect m'inspire de pensées. Le Tibre a sur ses bords des ruines qui font monter le voyageur vers un passé profond, et qui, de lierre noir et de lichen couverte, apparaissent, tagris, parmi les herbes vertes. Le gai Guadalquivir rit aux blonds orangés, et reflète les soirs les boléros légers, le pactole à son or, le Bosphore à sa rive, où vient faire son kiff l'odalisque lascive. Le Rhin est un burgrave, et c'est un troubadour que le lignon, et c'est un ruffian que l'adour. Le Nil, au bruit plaintif de ses eaux endormies, berce de rêves doux le sommeil des momies. Le grand Meskhessébé, fier de ses joncs sacrés, charrie augustement ses îlots mordorés. Et soudain, beau d'éclairs, de fracas et de faste, splendidement s'écroule en Niagara vaste, le Rotas, où l'essaim des cygnes familiers mêle sa grâce blanche au vert mât des lauriers. Sous son ciel clair que raie un vol de gypaète, rythmique et caressant, chante ainsi qu'un poète. Enfin, Ganga, parmi les hauts palmiers tremblants et les rouges Padmas, marche à pas fier et lent, en appareil royal, tandis qu'au loin la foule le long des temples va, hurlant, vivante houle, au claquement massif des cymbales de bois, et qu'accroupie, filant ses notes de hautbois, du saut de l'antilope agile, attendant l'heure, le tigre jaune aux d'oreiller s'étire et pleure. Toi, Seine, tu n'as rien, deux quais, et voilà tout. Deux quais crasseux semés de l'un à l'autre bout, d'affreux bouquins moisis et d'une foule insigne, qui fait dans l'eau des ronds et qui pêche à la ligne. Oui, mais quand vient le soir, raréfiant enfin, les passants alourdis de sommeil ou de faim, et que le couchant met au ciel des taches rouges, qu'il fait bon aux rêveurs descendre de leur bouge, et s'accoudant au pont de la cité, devant Notre-Dame, songer, cœur et cheveux au vent, les nuages chassés par la brise nocturne, courent, cuivreux et roux, dans l'azur taciturne, sur la tête d'un roi du portail, le soleil, au moment de mourir, pose un baiser vermeil. L'hirondelle s'enfuit à l'approche de l'ombre, et l'on voit voleter la chauve-souris sombre. Tout bruit s'apaise autour.
à peine un vague son, dit que la ville est là qui chante sa chanson, qui lèche ses tyrans et qui mord ses victimes. Et c'est l'aube des vols, des amours et des crimes. Puis tout à coup, ainsi qu'un ténor effaré, lançant dans l'air bruni son cri désespéré, son cri qui se lamente et se prolonge et crie, éclate en quelque coin l'orgue de barbarie. Il brame un de ses airs, romance ou polka, qu'enfant, nous tapotions sur nos harmonicas, et qui font, lent ou vif, réjouissant ou triste, vibrer l'âme aux proscrits, aux femmes, aux artistes. C'est écorché, c'est faux, c'est horrible, c'est dur, et donnerait la fièvre à Rossini pour sûr. Ses rires sont traînés, ses plaintes sont hachées, sur une clé de sol impossible juchée. Les notes ont un rhume et les dos sont des las, mais qu'importe, l'on pleure en entendant cela. Mais l'esprit, transporté dans le pays des rêves, sent à ses vieux accords couler en lui des sèves. La pitié monte au cœur et les larmes aux yeux, et l'on voudrait pouvoir goûter la paix des cieux, et dans une harmonie étrange et fantastique, qui tient de la musique et tient de la plastique, l'âme les inondant de lumière et de chant, mêle les sons de l'orgue aux rayons du couchant. Et puis l'orgue s'éloigne, et puis c'est le silence, et la nuit terne arrive, et Vénus se balance sur une molle nue au fond des cieux obscurs. On allume les becs de gaz le long des murs, et l'astre et les flambeaux font des zigzags fantasques dans le fleuve plus noir que le velours des masques, et le contemplateur sur le haut garde-fou, par l'air et par les ans rouillé comme un vieux sou, se penche en proie au vent néfaste de l'abîme. Pensée, espoir serein, ambition sublime, tout jusqu'au souvenir, tout s'envole, tout fuit, et l'on est seul avec Paris, l'onde et la nuit. Sinistre trinité, de l'ombre dure porte, manée tesselle Pharès des illusions mortes. Vous êtes toutes trois, ô goules de malheur, si terribles que l'homme, ivre de la douleur, que lui font en perçant sa chair vos doigts de spectre, l'homme, espèce d'Oreste, à qui manque une électre, sous la fatalité de votre regard creux, ne peut rien, et va droit au précipice affreux. Et vous êtes aussi toutes trois si jalouses de tuer et d'offrir au grand ver des épouses, qu'on ne sait que choisir entre vos trois horreurs. Et si l'on craindrait moins périr par les terreurs des ténèbres que sous l'eau sourde, l'eau profonde, ou dans tes bras fardés, Paris, reine du monde. Et tu coules toujours, Seine, et tout en rampant, tu traînes dans Paris ton cours de vieux serpent boueux, emportant vers tes havres tes cargaisons de bois, de houille et de cadavres. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Poème 36, Marco, des poèmes saturniens de Paul Verlaine, lu pour LibriVox.org par J. C. Guan. Quand Marco passait, tous les jeunes hommes se penchaient pour voir ses yeux, des Sodomes où les feux d'amour brûlaient sans pitié, ta pauvre cahute, ô froide amitié. Tout autour dansaient des parfums mystiques, où l'âme, en pleurant, s'anéantissait. Sur ses cheveux roux un charme glissait, sa robe rendait d'étranges musiques, quand Marco passait. Quand Marco chantait, ses mains sur l'ivoire évoquait souvent la profondeur noire des airs primitifs que nul n'a redit, et sa voix montait dans les paradis de la symphonie immense des rêves, et l'enthousiasme alors transportait vers des cieux connus quiconque écoutait ce timbre d'argent qui vibrait sans trêve quand Marco chantait. Quand Marco pleurait, ses terribles larmes défiaient l'éclat des plus belles armes. Ses lèvres de sang fonçaient leur carmin, et son désespoir n'avait rien d'humain. Pareil au foyer que l'huile exaspère, son courroux croissait rouge, et l'on aurait dit d'une lionne à l'âpre forêt, communiquant sa terrible colère. Quand Marco pleurait. Quand Marco dansait, sa jupe moirée allait et venait comme une marée, et, tel qu'un bambou flexible, son flanc se tordait, faisant saillir son sein blanc. Un éclair partait, sa jambe de marbre, emphatiquement cynique, haussait ses mates splendeurs, et cela faisait le bruit du vent de la nuit dans un arbre, quand Marco dansait. Quand Marco dormait, oh, quel parfum d'ambre et de chair mêlée opprimait la chambre. Sous les draps, la ligne exquise du dos ondulait, et dans l'ombre des rideaux, la laine montait, rythmique et légère. Un sommeil heureux et calme fermait ses yeux, et ce doux mystère charmait les vagues objets parmi l'étagère. Quand Marco dormait. Mais quand elle aimait, des flots de luxure débordaient, ainsi que d'une blessure, sort un sang vermeil qui fume et qui boue, de ce corps cruel que son crime absout. Le torrent rompait les digues de l'âme, noyait la pensée et bouleversait tout sur son passage, et rebondissait, souple et dévorant comme de la flamme, et puis se glaçait. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 37. César Borgia. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Guane. Portrait en pied. Sur fond sombre, noyant un riche vestibule, où le buste d'Horace et celui de Tibulle, lointain et de profil, rêvent en marbre blanc, la main gauche au poignard et la main droite au flanc, tandis qu'un rire doux redresse la moustache, le duc César, un grand costume, se détache. Les yeux noirs, les cheveux noirs et le velours noir vont contrastant parmi l'or somptueux d'un soir, avec la pâleur mate et belle du visage, vue de trois quarts et très ombrée, suivant l'usage des Espagnols ainsi que des Vénitiens, dans les portraits de rois et de patriciens, le nez palpite, fin et droit, la bouche rouge et mince, et l'on dirait que la tenture bouge au souffle véhément qui doit s'en exhaler. Et le regard errant avec laissé-aller, devant lui, comme il sied aux anciennes peintures, fourmille de pensées énormes d'aventures. Et le front, large et pur, sillonné d'un grand pli, sans doute de projets formidables remplis, médite sous la toque où frissonne une plume, s'élançant hors d'un nœud de rubis qui s'allume. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 38. La mort de Philippe II. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Guane. Le coucher d'un soleil de septembre ensanglante, la plaine morne et l'âpre arête des sierras, et de la brume au loin l'installation lente. le Guadarrama pousse entre les sables ras son flot hâtif qui va réfléchissant par places quelques oliviers nains tordant leurs maigres bras. Le grand vol anguleux des éperviers rapaces raie à l'ouest le ciel mat et rouge qui brunit, et leurs cris rauques grincent à travers les espaces. Despotique et dressant au-devant du zénith l'entassement brutal de ses tours octogones, l'Escurial étend son orgueil de granit. Les murs carrés, percés de vitraux monotones, montent droits, blancs et nus, sans autres ornements que quelques grilles sculptées qu'alternent des couronnes, avec des bruits pareils aux rudes hurlements d'un ours que des bergers navrent de coups de pioche et dont l'écho redit les râles alarmants. Torrent de cris roulant ses ondes sur les roches et puis s'évaporant en de murmures longs sinistrement dans l'air du soir tintent les cloches. Par les cours du palais où l'ombre met ses plombs circule, tortueux serpent hiératique, une procession de moines aux frocs blonds qui marchent un par un suivant l'ordre ascétique et qui, pieds nus, la corde aux reins, un cierge en main, ulule d'une voix formidable un cantique. Qui donc ici se meurt? Pour qui sur le chemin cette paille épandue et ces croix longs voilées, selon le rituel catholique romain? La chambre est haute, vaste et sombre. Niellée, les portes d'acajou massif tournent sans bruit, leur serrure étant, comme leurs gonds, huilée. Une vague rougeur plus triste que la nuit filtre, arrêt indécis, par les plis des tentures, à travers les vitraux où le couchant reluit, et fait papilloter sur les architectures, à l'angle des objets, dans l'ombre du plafond, ce halo singulier qu'on voit dans les peintures. Parmi le clair-obscur transparent et profond, s'agitent effarés des hommes et des femmes, à pas furtifs, ainsi que les hyènes font. Riches, les vêtements des seigneurs et des dames, velours pâne, satin soie, hermine et brocart, chandelode du luxe, en chatoyante gamme, et trouant par éclairs distancés avec art l'opaque demi-jour, les cuirasses de cuivre, des gardes alignés scintillent de trois quarts. Un homme en robe noire, à visage de guivre, se penche en caressant de la main ses fémurs, sur un lit, comme l'on se penche sur un livre. Des rideaux de drap d'or, raides comme des murs, tombent d'un dé de bois d'ébène en droite ligne, dardant à temps égaux l'œil des diamants durs. Dans le lit, un vieillard d'une maigreur insigne égrène un chapelet qu'il baise par moments entre ses doigts crochus comme des brins de vigne. Ses lèvres font ce sourd et long marmottement, dernier signe de vie et premier d'agonie, et son haleine pue épouvantablement. Dans sa barbe couleur d'amarante ternie, parmi ses cheveux blancs où luisent des tons roux, sous son linge bordé de dentelles jaunies, avide, empressé, fourmillant et jaloux, de pomper tout le sang malsain du mourant fauve, en bataillons serrés, vont et viennent les poux. C'est le roi, ce mourant qu'assistait un mire chauve, le roi Philippe II d'Espagne, salué, et l'aigle autrichien s'effare dans l'alcôve. Et de grands écussons, aux murailles clouées, brillent, et maints drapeaux où l'oiseau noir s'étale, pendent deçà delà, vaguement remués. La porte s'ouvre. Un flot de lumière brutale jaillit soudain, déferle, et bientôt s'établit par l'ampleur de la chambre en nappe horizontale. Porteur de torches, roux, et que l'extase emplit, entre 10 capucins qui restent en prière. Un d'entre eux se détache et marche droit au lit. Il est grand, jeune et maigre, et son pas est de pierre. Et les élancements farouches de la foi rayonnent à travers les cils de sa paupière. Son pied ferme et pesant et lourd, comme la loi, sonne sur les tapis, régulier, emphatique. Les yeux baissés en terre, il marche droit au roi. Et tous, sur son trajet, dans un geste extatique, s'agenouillent, frappant trois fois du poing leur sein, car il porte avec lui le sacré viatique. Du lit s'écarte avec respect le matassin, le médecin du corps, en pareille occurrence, devant céder la place, âme, à ton médecin. La figure du roi, qui tire la souffrance, à l'approche du frais se rassérène un peu, tant la religion est grosse d'espérance. Le moine, cette fois, ouvrant son œil de feu, tout brillant de pardon mêlé à des reproches, s'arrête, messager des justices de Dieu. Sinistrement dans l'air du soir tintent les cloches. Et la confession commence. Sur le flanc, se retournant, le roi, d'un ton sourd, bas et grêle, parle de feu de juifs, de bûcher et de sang. Vous repentiriez-vous par hasard de ce zèle, brûler des juifs, mais c'est une dilection, vous fûtes ce faisant orthodoxe et fidèle. Et, se pétrifiant dans l'exaltation, le révérend, les bras croisés en croix, tête dressée, semble l'esprit sculpté de l'Inquisition. Ayant repris haleine et d'une voix cassée, péniblement, et comme arrachant par lambeaux, un remords douloureux du fond de sa pensée, le roi, dont la lueur tragique des flambeaux éclaire le visage osseux et le front blême, prononce ces mots « Flandre, Albe, mort, sac, tombeau ». Les Flamands, révoltés contre l'Église même, furent très justement punis, à votre lot, et je m'étonne au roi de ce doute suprême. Poursuivez. Et le roi parla de Don Carlos, et deux larmes coulaient tremblantes sur sa joue, palpitante et collée affreusement à l'os. Vous déplorez cet acte, et moi je vous en loue. L'infant, certes, était coupable au dernier point, ayant voulu tirer l'Espagne dans la boue, de l'hérésie anglaise, et de plus n'ayant point frémi de conspirer aux ruses abhorrées, et contre un père, et contre un maître, et contre un oin. Le moine ensuite dit les formules sacrées, par quoi tous nos péchés nous sont remis, et puis, prenant l'hostie avec ses deux mains timorées, sur la langue du roi la déposa. Tout bruit se sont tus, et la cour, pliant dans la détresse, pria, muette et pâle, et nul n'a su depuis si sa prière fut sincère ou bien traîtresse. Qui dira les pensées obscures que protégea ce silence, brouillard complice qui se dresse? Ayant communié, le roi se replongea dans l'ampleur des coussins, et la béatitude de l'absolution reçue ouvrant déjà l'œil de son âme au jour clair de la certitude, épanouit ses traits en un sourire exquis, qui tenait de la fièvre et de la quiétude. Et tandis qu'alentour duc, comte et marquis, pleins d'angoisse, fichaient leurs yeux sous la courtine, l'âme du roi montait aux cieux conquis. Puis le râle des morts hurla dans la poitrine de l'auguste malade avec des sursauts fous, tel l'ouragan passe à travers une ruine. Et puis, plus rien. Et puis, sortant parmi le trou, ainsi que des serpents frileux de leurs repères, sur le corps froid les vers se mêlèrent aux poux. Philippe II était à la droite du Père. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 39. Épilogue des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Première partie. Le soleil, moins ardent, lui claire au ciel moins dense. Balancé par un vent automnal et berceur, les rosiers du jardin s'inclinent en cadence. L'atmosphère ambiante à des baisers de sœurs. La nature a quitté pour cette fois son trône de splendeur, d'ironie et de sérénité. Clémente, elle descend, par l'ampleur de l'air jaune, vers l'homme, son sujet pervers et révolté. Du pan de son manteau que l'abîme constelle, elle daigne essuyer les moiteurs de nos fronts. Et son âme éternelle et sa forme immortelle donnent calme et vigueur à nos cœurs mous et prompts. Le frais balancement des ramures chenues, l'horizon élargi plein de vagues chansons, tout jusqu'au vol joyeux des oiseaux et des nues, tout aujourd'hui console et délivre. Pensons. Deuxième partie. Donc, c'en est fait. Ce livre est clos. Chères idées qui rayaient mon ciel gris de vos ailes de feu, dont le vent caressait mes tempes obsédées, vous pouvez revoler de vers l'infini bleu. Et toi, vers qui tintais, et toi, rime sonore, et vous, rythme chanteur, et vous, délicieux souvenir, et vous, rêves, et vous encore, images qu'évoquaient mes désirs anxieux, il faut nous séparer, jusqu'au jour plus propice, où nous réunira l'art, notre maître. Adieu. Adieu, doux compagnon. Adieu, charmant complice. Vous pouvez revoler de vers l'infini bleu. Aussi bien, nous avons fourni notre carrière et le jeune étalon de notre bon plaisir, tout affolé qu'il est de sa course première, a besoin d'un pot d'ombre et de quelques loisirs. Car toujours nous t'avons fixé, ô poésie, notre astre unique et notre unique passion, t'ayant seule pour guide et compagne choisie, mère, et nous méfiant de l'inspiration. Troisième partie. Ah, l'inspiration superbe et souveraine, l'égérie au regard lumineux et profond, le génium commode et l'erato soudaine, l'ange des vieux tableaux avec des ors au fond, la muse dont la voix est puissante sans doute, puisqu'elle fait d'un coup dans les premiers cerveaux, comme ces pissenlits dont s'émaille la route, pousser tout un jardin de poèmes nouveaux. La colombe, le Saint-Esprit, le Saint-Délire, les troubles opportuns, les transports complaisants, Gabriel et son luth, Apollon et sa lyre. Ah, l'inspiration, on l'invoque à 16 ans. Ce qu'il nous faut à nous, les suprêmes poètes, qui vénérons les dieux et qui n'y croyons pas, à nous, dont nul rayon n'auréola les têtes, dont nulle Béatrix n'a dirigé les pas. À nous qui ciselons les mots comme des coupes, et qui faisons des vers émus très froidement. À nous qu'on ne voit point les soirs aller par groupes, harmonieux, au bord des lacs, et nous pâmant. Ce qu'il nous faut à nous, c'est, aux lueurs des lampes, la science conquise et le sommeil dompté. C'est le front dans les mains du vieux Faust des étampes, c'est l'obstination et c'est la volonté. C'est la volonté sainte, absolue, éternelle, cramponnée au projet comme un noble condor, au flanc fumant de peur d'un buffle et d'un coup d'aile, emportant son trophée à travers les cieux d'or. Ce qu'il nous faut à nous, c'est l'étude sans trêve, c'est l'effort inouï, le combat non pareil. C'est la nuit, l'âpre nuit du travail, d'où se lève, lentement, lentement, l'œuvre, ainsi qu'un soleil. Libre à nous inspirer, cœur qu'une œillade enflamme, d'abandonner leur être au vent comme un bouleau. Pauvres gens, l'art n'est pas d'éparpiller son âme. Est-elle en marbre ou non, la Vénus de Milo? Nous donc sculptons avec le ciseau des pensées le bloc vierge du beau par rose immaculée, et faisons-en surgir sous nos mains empressées quelques pures statues au péplos étoilé, afin qu'un jour frappant de rayons gris et roses le chef-d'œuvre serein comme un nouveau Memnon, l'aube postérité, fille des temps moroses, fasse dans l'air futur retentir notre nom. Fin du poème. Fin des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public.